Je vais commencer de façon un peu rituelle en remerciant Louis pour cette invitation, sachant que dans les jours ou semaines qui ont précédé, je ne l'ai pas toujours remercié, parce que quand bien même j'ai été immédiatement séduit par cette idée de réfléchir sur la construction d'objets et que ça m'a d'emblée plu, j'étais très content d'avoir été sollicité pour cela. Après, je l'ai un petit peu maudit parce que j'étais un peu en peine. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur ces affaires-là? Donc finalement, voilà, j'ai construit quelque chose dont je suis pas persuadé que c'était la meilleure chose à dire, mais voilà en tout cas ce que je vous propose aujourd'hui. Et je voudrais en l'occurrence commencer en évoquant ce qui me semble être un paradoxe. Le paradoxe est le suivant: alors que l'opération de construction d'objets est pensée et conçue par beaucoup comme centrale dans la conduite et dans la valeur d'une recherche, eh bien, elle s'avère, je trouve de façon un peu étonnante, peu discutée, notamment dans ses implications pratiques. Et voilà, je propose de commencer par discuter un petit peu cela, notamment pour étayer un petit peu ce constat sous forme de paradoxe. Et pour ça, je vais revenir successivement sur les deux versants du paradoxe pour prononcer. Alors, le premier versant renvoie à l'idée que l'opération de construction de l'objet apparaît comme centrale dans la pertinence accordée à une recherche, en tout cas dans la société française, ou en tout cas dans certains secteurs de celle-ci. Et comme ça a été dit hier, c'est assurément un héritage du métier de sociologue qui, voilà, théorise la nécessité de la construction de l'objet et en fait sans doute un élément central de la scientificité des sciences sociales. Donc je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit hier. Ici, je voudrais simplement m'attarder sur cette importance, voilà, accordée par les auteurs du métier de sociologue à la question de la construction de l'objet et de montrer à quel point c'est finalement une nécessité de passer par cette opération, puisque c'est la façon dont l'objet est construit qui détermine la portée d'un travail d'après eux. Donc on peut dire que Bourdieu, Chambourédon et Passeron théorisent la nécessité de la construction de l'objet. Et il me semble que sur ce point de vue, ils ont été entendus. Alors, vous aurez compris, je ne partage pas forcément le pessimisme de certains d'hier. Alors peut-être parce que je fais référence à une version un peu plus light, un peu plus édulcorée de ce qu'est la construction d'objets, donc peut-être une conception peut-être un peu moins exigeante que celle qui était à l'œuvre hier. Mais il me semble que cette nécessité de la construction d'objets est structurante, au moins sur un plan rhétorique, au moins sur le plan des visées. En sociologie, en tout cas en France, qu'à l'étranger, c'est assurément très différent. C'est frappant de voir quand on explique ça à un chercheur étranger, il ne comprend pas de quoi on parle et le mot n'existe même pas vraiment. Et c'est un peu difficile de le traduire parce que on le traduit littéralement, parce que l'équivalent n'existe pas chez eux. Et il me semble qu'on peut voir une preuve de l'importance accordée à cette exigence de construction de l'objet dans le fait qu'elle est intériorisée par beaucoup de chercheurs. Et je me suis amusé à regarder, en préparant l'intervention, chez des auteurs a priori très éloignés de nous, si on retrouvait cela. Et en l'occurrence, un pragmatiste comme Cyril Lemieux, eh bien, évoque l'importance, d'après lui, de la construction de l'objet. Alors, il n'entend pas forcément dans les mêmes termes que le métier de sociologue, mais néanmoins, dans un texte qui s'appelle « Problématiser », il explicite qu'on ne peut qualifier de sociologique qu'une démarche d'enquête sous-tendue par une construction d'objets. Et il revient sur, d'après lui, comment on construit l'objet, et ça passe par une liaison entre travail de terrain et questions d'ordre théorique. De même, un auteur comme Pogam consacre une notice spécifique à cette question dans son livre appelé « Les 100 mots de la sociologie ». Alors, en toute rigueur, vous pouvez dire que la notice s'appelle « Objet d'étude », mais quand on la lit, voilà, elle porte sur la question de la construction d'objets. Donc ici, ce ne sont que deux cas que je cite à titre illustratif, mais il me semble qu'on pourrait en trouver d'autres. Alors bien sûr, il faudrait faire un travail plus systématique de décompte, etc., pour étayer véritablement l'idée que j'avance ici, mais il me semble qu'il y a quand même une tendance propre à la sociologie française ici. Et il me semble qu'on peut conclure à une forme de routinisation, alors pour le meilleur et pour le pire, de l'usage de la notion. Alors, pour le meilleur, ça veut dire que voilà, ça fait partie des exigences que tout le monde doit avoir en tête. Et il me semble que dans la plupart des cours de méthode, c'est évoqué, c'est enseigné. Mais pour le pire, c'est aussi que ça s'accompagne d'un usage finalement un peu superficiel qui évacue peut-être pour partie la portée que ça pouvait avoir dans les années 60, 70. Donc voilà pour le premier versant du paradoxe. Le deuxième versant, c'est l'idée hein, que cette opération de construction de l'objet, qui est souvent invoquée, me semble très peu discutée dans ses implications concrètes. Alors là aussi, il aurait fallu approfondir pour consolider le propos, mais à défaut de faire vraiment une enquête spécifique là-dessus, je me suis contenté de faire un recensement du nombre d'articles consacrés à cette question dans la rubrique « Savoir-faire » de la revue Genèse. Alors avant de donner les résultats de ce petit travail de décompte, je tiens à faire deux précisions quant à ce qui justifie, ce qui sous-tend le choix de ce support. Genèse, c'est une revue dont on peut dire qu'elle s'inscrit dans une filiation critique avec Bourdieu, qui est, alors, à l'occasion du numéro 100, il y a eu un travail bibliographique qui a été fait. Il s'avère que c'est l'auteur le plus cité dans la revue dans les années 90, c'est l'auteur le plus cité dans la revue dans les années 2000, et c'est l'auteur le plus cité dans les années 2010 à 2015. Donc voilà, c'est l'auteur le plus cité dans la revue, mais néanmoins filiation critique. De plus, c'est une revue qui a été impulsée à Jourdan, dans le sillage du laboratoire des sciences sociales, qui est à l'époque dirigé par Chamboredon. Donc même si Chamboredon n'a jamais fait partie de la revue, les fondateurs évoquent l'importance que Chamboredon a pu avoir pour eux. De plus, au-delà des noms, hein, cette filiation se retrouve aussi dans une série de mots d'ordre qui sont au principe de la revue, unité des sciences sociales, volonté de relier travail empirique et questionnement plus large, souci d'envisager les choses de façon relationnelle et d'inscrire l'étude des faits sociaux dans une perspective génétique, et aussi insistance sur la nécessité d'une démarche réflexive. Et cette exigence de réflexivité, a notamment été, se repère notamment dans Genèse, dans l'existence de cette rubrique savoir-faire. Cette rubrique qui s'efforce, hein, je cite une brochure qui avait été éditée en 2001, d'entrer dans, je cite, les secrets de fabrication des textes scientifiques, de présenter les procédés des métiers et le non-dit des savoirs, de permettre au lecteur de pénétrer dans les coulisses de la recherche. Il me semble que, de ce fait, l'analyse du contenu de la rubrique constitue un bon indicateur de ce qui s'écrit à propos de ce qu'on pourrait appeler les questions de méthode. Et je me suis amusé à regarder ce qui a été publié dans cette rubrique de 90, donc date de création de la revue, à 2001. Je pensais avoir plus de temps, mais j'ai dû m'arrêter faute de temps à 2001. Et il apparaît que dans cet intervalle, 45 articles ont été publiés dans la revue, dans la rubrique savoir-faire, et aucun d'entre eux ne contient le mot construction d'objets dans son titre. Quand on regarde les résumés, il n'est pas question, en tout cas pas centralement, peut-être que ça apparaît de façon périphérique ailleurs dans le texte, mais la construction d'objet n'est pas une question qui est centrale dans ces 45 articles. Quand on affine un peu le regard, il apparaît que la majorité des textes relèvent de l'analyse de la situation d'enquête, et des textes devenus célèbres comme « Enquêter en milieu populaire » ou « S'imposer aux imposants hein, », pour faire un petit clin d'œil à des personnes ici présentes. Il y a aussi des articles sur l'étude des implications des conventions statistiques, sur des réflexions d'ordre général sur les échelles d'analyse, sur l'intérêt du comparatisme, sur l'intérêt des séries longues, etc. etc. Mais rien, ou peu, ou de façon très très périphérique, sur la question de la construction d'objets. Alors, j'ai pas eu le temps, comme je le disais, de regarder systématiquement ce qui suit après 2001, mais ça correspond à peu près à la période où j'ai eu connaissance de cette revue, j'ai commencé à la lire, et du coup, j'ai pas l'impression que ça donnerait un résultat sensiblement différent. Et du coup, voilà, il semble que finalement, on a affaire à quelque chose d'assez étonnant. Voilà, la centralité, en tout cas pour certains, de cette question, et finalement le peu de cas qui en est fait dans les articles d'ordre méthodologique. Et s'agissant de la rubrique savoir-faire, ce constat me semble d'autant plus frappant que dans la description des attendus de la rubrique, qu'on retrouve en ligne, vous pouvez aller le consulter, il est écrit « Nous attendons pour cette rubrique des textes centrés sur des problèmes aussi divers que la négociation des terrains de recherche, la découverte et les stratégies d'exploitation de sources archivistiques, les relations entre enquêteurs et enquêtés avant, pendant et après l'enquête, les modalités de l'objectivation statistique ou encore les conditions concrètes de l'élaboration théorique. » Et le fait est que ce dernier versant relatif, on va dire, aux modalités de construction de nos outils intellectuels, eh bien, est pour le moins négligée. Voilà, la revue ne reçoit pas, ou en tout cas ne publie pas, d'articles sur ce sujet. Et alors, du coup, on peut en conclure que c'est une question qui est un peu laissée dans l'ombre. Et au-delà du cas de la rubrique savoir-faire de Genèse, il y a aussi bien d'autres revues, bien d'autres supports, bien d'autres lieux où on publie des textes d'ordre méthodologique. Et il me semble que le constat qui vaut pour Genèse vaut aussi ailleurs. Alors qu'on a beaucoup de textes sur des aspects vraiment concrets du travail sociologique, hein, depuis les conditions d'entrée sur le terrain jusqu'aux relations avec les enquêtés après la publication d'un livre, par exemple, eh bien, alors que voilà, il y a beaucoup de travaux là-dessus, eh bien, il me semble tout à fait significatif de constater que les opérations concrètes de la construction d'objets ne font pas ou très peu l'objet de réflexions approfondies. Il me semble qu'on a affaire vraiment à une sorte un peu de boîte noire, comme pour l'écriture des sciences sociales, dont certains d'entre nous ont parlé hier soir à table. Bien voilà, on a affaire à une opération qui est laissée dans l'ombre, comme si cela constituait quelque chose de non questionnable. Il me semble qu'on a affaire à une sorte de division du travail. Il y aurait des opérations techniques, voilà, qui relèvent de la conduite de l'enquête, et qui font donc l'objet de discussions d'ordre méthodologique. Et d'autre part, on a des opérations strictement intellectuelles qui, elles, seraient indiscutées et indiscutables. Et il semble que, voilà, c'est au regard de ce constat qui semble avoir la peine d'essayer d'avancer un petit peu dans la réflexion de ce que construire l'objet veut dire, mais sur le plan des implications concrètes et pratiques que cela induit. Alors, il me semble que chez Bourdieu, la construction d'objets relève, entre autres choses, et en tout cas c'est cet aspect-là que je vais m'attarder, relève d'une entreprise destinée à lier travail empirique et élaboration théorique. Il insiste beaucoup sur ce point. Hein, dans un séminaire du début des années 70, publié récemment dans Actes, il a une formule qui résume bien cela en disant « Les bonnes idées théoriques ne se trouvent qu'en faisant des enquêtes ». Et plus généralement, hein, cette liaison entre empirie et théorie se retrouve dans tous ses travaux, hein, et même les textes considérés comme les plus théoriques sont toujours irrigués de son travail empirique, notamment de son terrain kabyle. Bon, je vais pas évoquer tout cela, mais je voudrais simplement insister sur le fait que cette insistance sur la nécessité de lier terrain et travail d'élaboration théorique est une constante chez Bourdieu, mais quand on regarde les choses dans le détail, il est finalement assez peu explicite sur la façon dont on peut mener à bien cette articulation entre travail empirique et élaboration théorique. Alors, je ne connaissais pas l'entretien qu'a cité hier Julien, donc l'entretien de 88, où l'édition en allemand du métier de sociologue, où Bourdieu dit... il me semble que c'est ça qu'il dit, si j'ai bien noté. Dans le métier de sociologue, on passe notre temps à dire il faut construire l'objet, mais on ne dit jamais comment on mène à bien cette opération. Voilà, je souscris pleinement à cette lecture. Il me semble que Bourdieu, Chamboredon et Passeron présentent globalement les choses sous l'angle de l'horizon à atteindre, sous la forme d'une nécessité, mais pas sous la forme finalement de la déclinaison d'une série d'opérations qui rendent possible cette liaison entre empirie et théorie. Je ne pense pas que ce soit un oubli, que ce soit un manquement, notamment chez Bourdieu, puisque finalement c'est assez, c'est tout à fait cohérent avec la façon dont il théorise le travail intellectuel, en mettant dans d'autres textes en évidence que celui-ci relèvera largement d'un sens pratique. Eh bien, Bourdieu souligne que ce sur quoi repose le travail intellectuel ne peut que difficilement faire l'objet d'une pédagogie explicite. Et d'ailleurs, que dans le texte, dans Réponse, où il revient sur ces questions de construction de l'objet, il est question de construction de l'objet dans une partie qui s'appelle « Transmettre le métier ». Et voilà, donc transmettre un métier, c'est bien l'idée qu'on est du côté plutôt du sens pratique que de l'explicitation, même s'il tente d'expliciter comment on peut le faire. Enfin, ici, il y a une sorte de point limite sur lequel il bute. Et voilà, il est donc, en toute logique, difficile de trouver des traces du comment faire dans les livres publiés de son vivant et les livres qui présentent des enquêtes achevées. Il me semble qu'on peut davantage voir ce travail à l'œuvre dans des textes d'ordre, on va dire, pédagogique, en particulier les cours du Collège de France. Alors, il faudrait rentrer dans le détail de chacun de ces cours, Mais il me semble qu'on peut dire à très grands traits que dans chacun de ses livres, en tout cas dans les livres qu'on va qualifier de thématiques, hein, donc je pense à l'État, à Manet et au dernier, Anthropologie économique, plutôt que les livres peut-être plus généraux, sociologie générale, mais dans les livres thématiques, il y a une sorte de mouvement commun où on voit voilà, comment il travaille. Et il me semble que sa démarche est une sorte de ressassement, il revient continuellement sur les mêmes questions en les approfondissant sans cesse, et il me semble que ça donne en voir un principe affirmé très tôt, à savoir que la construction d'objets ne saurait être vue comme le produit d'une sorte d'acte inaugural, comme il dit dans Réponse, mais que voilà, c'est quelque chose qui se fait, comme il dit toujours dans Réponse, par retouches successives. Quand on regarde concrètement toujours comment il s'y prend, il me semble qu'il part avant tout, toujours dans ses livres, des lectures qu'il a pu faire, hein, que ce soit sur l'État, sur peut-être un peu moins vrai sur Manet, mais aussi dans l'anthropologie économique. À chaque fois, il passe beaucoup de temps à présenter, à discuter des grands textes, et pour faire ressortir leurs forces et leurs angles morts, et pour tenter de proposer une proposition, une interprétation qui les dépasse, et bien souvent en intégrant des éléments puisés ça et là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il se contente de faire cela, et que, enfin, je pense en toute rigueur, pour voir comment Bourdieu concrètement construit ses objets, ben, il faudrait aller plus loin et mettre en rapport ses cours avec l'état d'avancement à ce moment-là des enquêtes. Et il est très possible que finalement ça se faisait dans un va-et-vient beaucoup plus clair que ce qui apparaît dans les cours. Mais en l'état, dans les cours, il me semble que ce qui domine, c'est plutôt finalement, on peut avoir l'impression que c'est en partant des textes des autres qu'il pose des questions. Néanmoins, on le voit quand même à plusieurs reprises. On voit comment à plusieurs reprises, comment il lit précisément empirie et théorie, comment il s'y prend pour poser des grandes questions à des petits fragments d'enquête. Et il me semble que le cas le plus exemplaire de cette attitude est sans doute le passage qui est ensuite repris dans les structures sociales de l'économie, où il montre comment le cadrage étatique donne forme à une interaction a priori banale entre un acheteur et un vendeur. Il me semble qu'il y a vraiment une sorte de tour de force qui montre à quel point un matériau a priori futile peut être d'une grande portée si on l'adosse à une question d'ordre général, hein, dont il devient l'aiguillon. Bon, j'arrête là sur ce point. Vous aurez compris que je cherchais ici à montrer que chez Bourdieu, l'opération de construction de l'objet consiste, entre autres choses, à tenter d'articuler des grandes questions et des données d'enquête, parfois issues de petits terrains. Et je voudrais maintenant prolonger la discussion en essayant de voir comment on peut, modestement, hein, essayer d'avancer dans la compréhension de comment on peut concrètement lier les unes aux autres, ou pour le dire autrement, hein, comment on peut essayer de connecter donc des questionnements d'ordre général à des enquêtes, hein, qui portent toujours sur des segments particuliers et souvent restreints du monde social. Bref, quelques réflexions sur la façon dont on peut essayer d'inscrire une enquête dans une perspective qui la dépasse. Pour cela, je vais m'appuyer sur des travaux que j'ai pu faire, mais en repartant de ce que propose Bourdieu, ce qui me semble que, en l'occurrence, il envisage cette question de deux manières qui sont bien sûr pas sans lien, mais que je vais ici dissocier hein, pour les besoins de l'explicitation. Alors, première manière renvoie à la promotion chez lui du raisonnement par analogie. Alors, il est tout à fait explicite à ce sujet, hein, notamment, encore une fois, dans Réponse, où il écrit que, je cite, « Le raisonnement analogique qui s'appuie sur l'intuition raisonnée des homologies est un formidable moyen de construction de l'objet. Il est ce qui permet de s'immerger complètement dans la particularité du cas étudié sans s'y noyer. Il est ce qui permet d'accomplir l'intention de généralisation en italique, qui est la science même, non par l'application de grandes constructions formelles et vides, mais par cette manière particulière de penser le cas particulier qui consiste à le penser vraiment comme tel. » Alors, c'est un passage extrêmement riche et on pourrait presque s'attarder sur chacun des mots qu'il compose. Je vais plutôt m'attarder sur un petit passage, celui où il dit que ce raisonnement analogique s'appuie sur une intuition raisonnée des homologies. C'est là quelque chose d'intéressant puisqu'il indique qu'il raisonne, il s'appuie sur une intuition, il part d'une intuition. Et comme celle-ci doit, nous dit-il, être raisonnée, ça s'apparente vraiment à une sorte d'hypothèse. Et Le raisonnement analogique repose sur l'hypothèse que des cas différents peuvent être comparables, ou pour le dire autrement, sur l'hypothèse qu'il y a des processus communs à l'œuvre derrière des faits qui se donnent à voir comme différents. Alors, cette assertion pourrait assurément faire l'objet de longs développements relatifs à la question de la commensurabilité au sens mathématique des cas étudiés. Je me contenterai ici d'évoquer, de signaler que la perspective de Bourdieu repose sur le refus de conclure à une singularité irréductible des cas traités. C'est parce qu'on fait le pari qu'il y a des principes communs qui sous-tendent les différents cas que le raisonnement analogique est possible. Alors, je ne développe pas cette question qui nous emmènerait trop loin, mais je vais ici insister sur un point précis relatif aux conditions de possibilité d'un tel raisonnement analogique. Alors, il y a quelques éléments de cette question dans le métier de sociologue, notamment quand les auteurs expliquent qu'il ne faut pas confondre ressemblance apparente et analogie. Et l'analogie, nous disent-ils, doit être conquise contre les apparences. Et on ne peut donc pas fonder l'analogie sur les ressemblances phénoménales. Il convient donc de réfléchir à ce qui permet le rapprochement de cas différents et, en première apparence, dissemblables. Et voilà, il développe assez peu ce point, mais Bourdieu nous indique que voilà, cette comparaison doit être construite. Et il faut donc se poser la question du rapport sous lequel on confronte deux cas différents. Alors, on retrouve ici la perspective classique de Durkheim qui a été évoquée hier sur les vertus de la comparaison. C'est aussi celle de Hughes qui met en relation le cas des médecins et des prostituées en disant qu'à travers ça, il s'agit de faire ressortir des dimensions structurantes à chacune de ces professions, des dimensions que l'examen isolé de chacune des professions risquerait de laisser dans l'ombre. Donc il s'agit par ce biais, si je prends Hughes, de faire ressortir une question centrale à chacun de ces métiers, à savoir la gestion de ce qui relève de l'intimité des clients. Et c'est un schéma de ce type que Muriel Darmon et moi avons mis en œuvre dans un travail commun qui a donné lieu à un article commun dans Société Contemporaine il y a 2 ans. Et cet article fait suite à 2 enquêtes que nous avions déjà faites au moment où on a commencé à travailler ensemble. Alors, du côté de Muriel, il s'agissait de son enquête sur les classes prépa, le livre était déjà sorti. Et dans mon cas, il s'agissait d'une enquête sur la fabrique des coureurs à pied de haut niveau marocain, qui était à l'époque parmi les meilleurs athlètes au plan international. Et mon livre était aussi, le livre tiré de cette thèse était déjà paru. Donc, deux études qui étaient déjà achevées au moment où on a tenté de les rapprocher. Et on a cherché à construire un objet à partir de ces 2 enquêtes de terrain. Alors, le but n'était pas de juxtaposer nos enquêtes respectives, ni de comparer terme à terme les 2 institutions de formation qu'on étudiait, donc elle les prépa et moi, on va dire, le centre d'entraînement au Maroc. Mais on cherchait plutôt d'essayer de mettre en place un mode particulier d'objectivation semblable à ce que Hughes évoque, à ce que Hughes peut faire. Et il nous semble que les 2 cas différents, voire même très dissemblables, qu'on étudiait, étaient sociologiquement comparables, au sens où ils sont régis par des logiques similaires et, à ce titre, justiciables d'une même analyse. Et le pari qui sous-tendait notre démarche était suivant, c'était qu'en confrontant nos 2 terrains, il s'agissait d'essayer de faire apparaître plus nettement certaines logiques de leur fonctionnement qu'en étudiant chacun des cas isolément. Et il s'agissait en fait de procéder à une sorte d'expérimentation sociologique avec l'idée qu'apporte-t-on de plus quand on confronte 2 enquêtes que quand on les analyse isolément. Et le test avait, en tout cas à nos yeux, d'autant plus d'intérêt qu'il s'appuyait, comme je l'ai signalé, sur 2 enquêtes qui étaient abouties et qui avaient été validées, en tout cas qui avaient été publiées. Et le fait qu'on a tous les 2 découvert des choses sur nos enquêtes respectives que nous n'avions pas vues ou moins nettement lorsqu'on avait travaillé chacun dans notre coin, le fait qu'on a tous les 2 vu des choses qu'on n'avait pas aussi bien vues quand on travaillait isolément, atteste les vertus de ce travail par analogie contrôlée, et notamment pour la mise au jour de l'importance et de la prégnance des classements interindividuels dans le quotidien des membres des 2 institutions de formation qu'on a étudiées. Donc, je ne détaille pas plus parce que le temps file, mais juste notre propos n'était bien sûr pas de dire que les deux institutions qu'on a étudiées étaient comparables terme à terme, mais il s'agissait uniquement de les rapprocher sous le rapport de ce qu'elles fabriquent et de ce qu'elles font à leurs membres, et notamment la façon dont elles les hiérarchisent et dont ils intériorisent les hiérarchies qui sont en vigueur dans ces espaces. Alors bien sûr, en faisant ça, ça conduisait à minimiser par construction les différences entre les institutions étudiées, il ne s'agissait pas de minimiser ces différences, mais en tout cas, il s'agissait de tenter de les neutraliser provisoirement, et ce, pour offrir la possibilité de mettre au jour des traits communs aux institutions qu'on étudie respectivement, et sans être prisonnier des spécificités empiriques de chacune d'elles. Alors, ceci étant dit, je dois faire préciser deux choses. Dans notre esprit, il ne s'agissait pas d'essayer de dupliquer un raisonnement de manière simili-statistique, en ayant une sorte de raisonnement toute chose égale par ailleurs, mais simplement d'essayer de voir sous quel rapport ces cas différents peuvent être comparés ou confrontés. Et d'autre part, on a bien sûr mis provisoirement de côté les différences, mais ceci c'était pour mieux y revenir ensuite. Et précisément, là aussi, ce travail de confrontation nous a permis de rendre plus clairement visibles certaines choses dont qu'on avait déjà aperçues, mais pas aussi clairement. Et notamment, l'un comme l'autre, on pouvait être tenté de référer les possibilités d'adhésion des membres de ces institutions et leur acceptation des contraintes très fortes qu'elles faisaient peser sur eux à leur propriété sociale. Sauf que du côté de Muriel, c'est plutôt des jeunes de classe moyenne et classe supérieure en France, alors que moi, c'est exclusivement des jeunes de milieu populaire au Maroc. Or, on voit deux populations très dissemblables sur le plan sociologique qui, finalement, acceptent au quotidien des dispositifs institutionnels très proches et qui en subissent, finalement, sont travaillés par ces choses-là à peu près de la même façon. Et de fait, ça nous invitait à pousser plus loin l'investigation. Du coup, qu'est-ce qui fait que des populations aussi dissemblables se soumettent à des régimes aussi proches? Et là, il fallait voir que des deux côtés, il y a des mécanismes de sélection et d'élection qui font qu'ils se vivent comme des élus, etc., et que ça a du sens pour eux de faire cela, mais aussi qu'on a affaire à deux institutions qui sont dotées d'une valeur sociale différente. Du côté de Muriel, les prépas, c'est extrêmement prestigieux, et même si ça s'y passe pas très bien, ça donne potentiellement accès à des choses moins intéressantes, alors que du côté de mon cas, si on devient Alguer Rouge, donc le meilleur coureur du monde de l'époque, on est quelqu'un de très connu, etc., on gagne bien sa vie, etc., mais si on est ne serait-ce que 10e mondial, le plus gros gain qu'on peut espérer tout au long de sa carrière est de l'ordre de 1 500 € sur une course, et si on est 50e mondial, eh bien, on ne vit pas très longtemps de son métier, puisque on ne peut pas en vivre. Donc on voit que c'est une des institutions qui se caractérise par des valeurs différentielles très différentes, et ce qui peut expliquer pourquoi telle ou telle population va être plus ou moins enclin à s'investir dans l'une ou l'autre de ces institutions. Je vais évoquer très 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 rapidement, mais on aura le temps d'y revenir peut-être dans la suite, sur la deuxième façon dont on peut, à mon avis, travailler cette question de liaison entre travail empirique et, montée en généralité. Il me semble que, très très vite, ici, ça s'inspire d'un autre passage de réponse. Donc là, il y a peut-être un effet générationnel, même si je pense être un petit peu plus jeune que Julien, effectivement, moi aussi, c'est plutôt par réponse que je suis entré dans ces questions-là. Bourdieu dit cette chose-là, et qui pour moi a vraiment été quelque chose de très structurant. Il invite à engager des enjeux dits théoriques très importants à propos d'objets dits empiriques bien précis, et souvent en apparence tout à fait mineurs, voire un peu dérisoires. Alors, moi, cette proposition m'a été personnellement très très utile, notamment parce que c'était une voie non négligeable d'annoblissement de mon objet. Hier, Marie-Pierre évoquait que c'était pas très sexy de travailler sur l'anglais. Je pense que travailler sur les coureurs marocains, ça l'est encore moins. Enfin, en tout cas, je me souviens d'interactions très désemparées. Les gens me disaient, qu'est-ce que tu fais? Je fais une thèse. Une thèse en quoi? Sociologie. Donc là, très intéressé, tu travailles sur quoi, les coureurs marocains? Ah bon ? Donc là, il y avait un blanc. Bon, donc le fait de dire mais non, à travers ça, je pose la question de la fabrique sociale du talent, etc. Ça permettait d'anoblir assurément l'objet, mais au-delà de ça, il me semble que il y a vraiment une piste extrêmement intéressante qui invite finalement à identifier de quoi son cas est-il le cas. Et il me semble qu'on peut mener à bien ce type d'opération qu'à condition de cibler ce que l'on cherche à généraliser. Et en l'occurrence, il s'agit, là je reprends les mots de Patrick Champagne, de ne pas confondre généralisation empirique et des résultats et généralisation théorique d'un schéma d'analyse construit à partir d'un cas particulier. Et en l'occurrence, moi, ce que j'ai essayé de faire, voilà, c'est à travers le cas de ces coureurs marocains, d'essayer de construire un schéma d'analyse de la façon dont on peut rendre compte de la genèse du talent. Et j'ai ensuite essayé de transposer ce travail sur les coureurs dans un texte plus programmatique au talent artistique. Alors, bien sûr... ça suppose une telle opération qu'on accepte de mettre en rapport deux objets dotés d'une valeur sociale inégale. Et je pense que l'opération même de comparer le sport et l'art fait offense à certains. Mais si on met ça de côté, eh bien, il me semble que finalement, on peut poser à l'un les questions qu'on pose à l'autre, sans bien sûr considérer que c'est exactement la même chose, chacun des cas conduit à faire ressortir plutôt certaines dimensions. Bon, comme j'ai dépassé et que j'ai peur de me faire gronder, je vais arrêter là, mais on pourra y revenir après. Merci.